Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Allez, bonjour à tous, on est lundi, 19h, c'est le début de votre émission, le RKS Foot Time Show, un contenu 100% football, 100% débat avec 3 personnes de choix. Avec nous aujourd'hui notre Daniel Riolo local, qui est en vacances du côté du sud, c'est notre ami Kevin. Salut Kevin, comment vas-tu?
Salut Melvin, salut à tous.
Bon, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait chaud, est-ce que tu es bien au soleil?
Il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique, le camping est super. Il manque plus qu'une grande juve vendredi et ce sera une semaine parfaite.
Eh ben écoute, ça on verra. Avec nous également, notre Jérôme Roten, Canary Petit Poussin.
Bonjour à tous.
Notre Pierrot qui est avec nous, comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va mieux que le temps sur Grenoble, donc ça va, écoute, tout va bien.
C'est vrai, merci. Pour te dire, Kevin, on a un temps qui est catastrophique depuis hier soir.
En fait, ouais, Grenoble te pleure, Kevin.
Exactement, Grenoble te pleure. Et justement, pour mettre un peu de soleil dans votre soirée, un programme haut en couleur, puisqu'on va parler de la finale de la Coupe de la Ligue, qui a opposé donc le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. On va parler également de l'OGC Nice, un club qui a pas mal bougé en coulisses, mais qui a très bien recruté. Et on va chercher un petit peu cette profondeur dans ce club qui nous intéresse. On va parler également de Loïc Perrin, de sa fin de carrière, des fins de carrière ratées de certains joueurs. Et pourquoi c'est si dommage que ça finisse comme ça? Et puis on finira bien sûr avec les huitièmes finales de la LDC, nos pronos, les dernières rencontres qu'il y a eu sur les clubs, les derniers visages qu'ils ont montrés. Et puis on finira bien sûr par notre petit quiz international qu'a dû nous préparer Kevin. Hein.
Exactement, un quiz de très haute qualité vous attend.
Messieurs. Allez, un quiz de haut niveau. Allez messieurs, c'est parti. On a vécu vendredi soir une histoire, la fin d'une histoire dans le football français, puisque c'était la dernière finale de la Coupe de la Ligue qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Un match, comment peut-on, je dirais soporifique pour ma part, un match vraiment à suivre 120 minutes, difficile autant pour les joueurs que pour moi personnellement en tant que téléspectateur. Le Paris Saint-Germain qui s'impose après la phase des tirs au but. Messieurs, on a vu deux équipes moyennes, une finale moyenne, avec des acteurs moyens. Pour moi, c'est vraiment de la suffisance que j'ai vu et un match vraiment pas attrayant. Kevin, comment t'as suivi cette finale, toi ?
Moi, je l'ai suivi chez moi, tranquillement. Pour moi, c'était cette image bien, parce que cette finale, en fait, elle a l'image de cette compétition, c'est-à-dire moyenne. Moyenne, pour pas dire inintéressante. C'est une compétition que j'ai pas vraiment compris. Autant la Coupe de France a un charme parce que tous les clubs de France peuvent y participer, autant la Coupe de la Ligue, c'est une compétition qui est réservée à l'élite entre guillemets du foot français, mais que les clubs français, à part le PSG, n'a jamais vraiment respecté, parce que souvent c'était un petit peu la coupe poubelle où tu faisais jouer ton équipe bis, tes jeunes, etc. Très peu d'équipes au final la joue régulièrement et la joue à fond. Donc finalement cette finale, elle est un petit peu à l'image de cette compétition qui moi personnellement ne me manquera pas. Après, pour tout ce qui va être du contenu de cette finale, je vais pas dire qu'il a été surprenant, parce que pour moi, quand tu mets 3-4 mois d'arrêt à des joueurs de foot de haut niveau, forcément le match de reprise ne peut pas être d'une très grande qualité derrière. Après, ça n'excuse pas certaines choses, certains choix, notamment le PSG avait un peu plus de rythme dans les jambes avec la finale contre Saint-Etienne. Je m'attendais à un PSG un peu plus engagé, surtout au début de match, ce qui n'a pas été le cas parce que Lyon a fait une très bonne entame de match, j'ai trouvé, au moins dans l'intensité. Alors après, techniquement, on savait qu'il y aurait des failles et des défauts chez les deux équipes, parce que comme je l'ai dit, c'est compliqué de retrouver tous les automatismes, et puis pour être très bon techniquement, il faut être physiquement au point. J'ai trouvé le PSG pas si dangereux que ça, avec notamment un Icardi transparent, inutile.
Ah, il a joué ?
Il a joué 60 minutes. C'est pour moi pas top du tout. Derrière, je mets un gros point d'interrogation sur les latéraux au PSG que je trouve d'un niveau, en tout cas ceux qui ont joué vraiment, vraiment pas au niveau de la Ligue des Champions. Et surtout, le problème, c'est que le PSG va jouer contre l'Atalanta prochainement. Alors, Atalanta, c'est pas le Real, on l'a toujours dit, hein, c'est pas le Real, c'est pas City, d'accord. Mais c'est un jeu qui est basé beaucoup sur les ailes, avec des très bons joueurs sur les côtés qui percutent et qui vont vite. Si le PSG n'est pas au rendez-vous sur les côtés, et notamment avec Kurzawa et Bakker, ou si Bernat arrive miraculeusement à revenir, je suis désolé, mais le PSG aura un gros problème sur ce match-là. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire, si j'essaie de synthétiser un petit peu.
Okay. On te rejoint, moi Pierre, j'aimerais avoir ton avis en tant que supporter parisien. Je donnerai le mien entre guillemets entre supporter lyonnais en essayant de prendre un peu plus de recul. C'est vrai que moi, pour moi, on a vu une image pâle de ce PSG.
Ouais, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand moi ce qui me peine, c'est quand t'as des matchs comme ça qui sont sur des chaînes où tout le monde peut les voir, ça me rend triste de voir que les joueurs ils saisissent pas l'occasion pour valoriser un petit peu ce qu'est le football français. Ils avaient cette chance d'avoir des gens qui jusqu'à maintenant n'étaient pas abonnés. On sait très bien qu'une grande partie de leur salaire et de l'inflation de leur salaire se fait sur l'audimat. Je pense qu'ils avaient tout intérêt aujourd'hui à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire parler d'eux. Et un peu à l'image de la finale contre Saint-Etienne, pour moi c'est en demi-teinte et c'est relativement triste. Après, mon analyse elle est assez simple. Quand sur 120 minutes t'as 0-0, bon bah qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas enthousiasmant de toute façon, hein. On va pas c'était pas le match de ma vie. C'était un peu à l'image de la finale de la Juve là en coupe où pareil, je crois que c'était contre Naples, hein, c'est ça.
Ouais.
Où bah t'as rien à voir en fait, tu retiens rien, t'es juste limite, tu sais, t'as l'impression que ceux qui ont fait les grandes gloires du football et qui sont aujourd'hui morts, ils se retournent dans leur tombe. C'est pas possible quoi. C'est triste à voir. Après, il y a quand même eu des choses qui sont ressorties. Malheureusement, c'est pas les attaquants qui ont ébloui le match, et c'est ce qui explique aussi le fait que le rendu soit terne. Pour moi, si je dois isoler un peu les tops et les flops, pour moi, sur les deux tops, bah, Verratti, notre Italien, parisien, un match stratosphérique.
Bien sûr, complètement.
Cette faculté qu'il a à casser les lignes, ce niveau de jeu, et en plus pendant 120 minutes, alors qu'il revient, franchement magnifique. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Kevin, mais franchement, très joli match.
Quand il est comme ça, c'est un régal.
Et sincèrement, dans des moments comme ça, je me dis, mais quelle chance on a eu d'arriver à le voler. Parce que très longtemps, il a été appelé le bijou italien, Marco Verratti. On se rappelle de ce moment où la Juve avait Pogba et où le Paris Saint-Germain avait Verratti, où il y a eu plusieurs spéculations sur des échanges entre ces deux joueurs. Et sincèrement, chaque année, je me dis, on a eu de la chance. C'est vraiment une chance d'avoir Verratti quand il est à ce niveau-là. Hein, je m'entends. Mais quand il est à ce niveau-là, c'est vraiment une chance pour le Paris Saint-Germain, mais comme pour le championnat de France. Dans les top Lopez, parce que bon, si aujourd'hui il n'y a pas de match, enfin s'il n'y a pas eu de but sur ce match, c'est en grande partie grâce à Lopez qui notamment fait un arrêt miraculeux à la 89e minute face à Neymar.
La tête de Neymar.
Et franchement, Lopez, d'année en année, c'est un top gardien, je tiens à le dire. Il a souvent été éclipsé, fini deuxième par rapport à des saisons stratosphériques comme l'ont pu le faire d'autres gardiens. Mais vraiment, pour moi, c'est un gardien qui est sous-coté. J'espère qu'il s'imposera de manière durable en sélection de Portugal parce qu'il le mérite. C'est un grand gardien. Il a un petit gabarit par rapport à certains gardiens de la scène internationale, mais c'est un grand gardien. Donc voilà, dans les tops, Verratti et Lopez. Et après, pour moi, deux joueurs qui ont entre guillemets terni le match, à l'inverse de ce que j'ai pu dire d'ailleurs la semaine dernière, Bakker, qui a fait 999 passes en arrière. À chaque fois qu'il avait le ballon, on avait l'impression d'avoir un joueur amateur qui était là et qui ne savait pas trop pourquoi il était là. Donc je rejoins Kevin sur le fait que les latéraux sont inquiétants. J'espère, et normalement, je ne m'avance pas trop, mais j'ai lu de sources plus ou moins sûres, mais que logiquement Bernat devait être là pour l'Atalanta. J'espère, parce que si on joue avec Bakker, qui se fait
et
dessus,
Kurzawa à droite.
Et Kurzawa à droite, alors normal. Là c'est encore autre chose, mais normalement il devrait être là.
Je te coupe mon Pierrot. Moi j'ai juste un tout petit doute sur Bernat. Bien évidemment que Bernat est meilleur que Kurzawa ou que Bakker. Le problème c'est que Bernat il a pas joué depuis très longtemps. J'ai même lu dans l'équipe hier qu'il avait pas encore rejoint le groupe en plus aux entraînements. S'il est dispo, c'est bien, mais avec quelle forme physique, avec quel rythme, dans un match couperé contre l'Atalanta, je sais pas s'il vaut mieux pas un Bakker qui a 100% de ses moyens, même s'il est moins bon, plutôt qu'un Bernat qui pour l'instant, on sait pas trop dans quel niveau il va revenir.
Ouais, mais rappelle-toi, Bernat, il avait eu aussi une période d'indisponibilité où il était revenu, je sais plus exactement contre quelle équipe, en dernière minute, et où il avait sorti un match stratosphérique et on disait, punaise, il a changé le visage du Paris Saint-Germain qui était terne sur les matchs avant qu'il revienne. Bon, c'est un grand professionnel, c'est un joueur qui a toujours été, qui m'a toujours surpris jusqu'à maintenant, parce qu'à chaque fois que je me dis, ne serait-ce que quand il est venu d'ailleurs du Bayern Munich, hein, où je me suis dit, allez hop, c'est bon, on vient encore de mettre un billet sur un mec qui sert à rien, il doit y avoir derrière des intérêts extra-sportifs qui doivent se négocier sur, prends mon joueur à cette somme-là, et puis écoute, c'est presque de l'optimisation fiscale, j'ai envie de dire, ces transferts.
C'est vrai.
Mais bon, écoute, il a su me contredire, j'espère qu'il arrivera encore à aller à l'encontre de mes pronostics et qu'il nous sortira un peu de cette impasse et de cette problématique qu'on a aujourd'hui avec les latéraux, quoi. Mais en tout cas, Bakker, là où il m'avait fait très forte impression sur le dernier match et où il avait été élu deuxième meilleur joueur du match contre Saint-Etienne, là, il a fait un match à l'encontre du jeu, à l'encontre de ce qu'est le football, à jouer tout le temps en arrière, à y avoir aucune prise d'initiative. Et bon, Lyon a fait un meilleur match que Saint-Etienne, surtout sur son côté. Après, pour moi, voilà, c'est pas possible, quoi. Si tu fais ça contre l'Atalanta, on va se faire ouvrir en deux, il va sortir avec un rouge au bout de 20 minutes, c'est pas possible, quoi. Et puis l'autre, pour moi, point négatif, l'autre flop, c'est Garcia. Garcia, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais quand tu vois qu'en fin de match il fait rentrer Cornet, Traoré, qui laisse Cherki sur le banc.
Cornet l'a joué, il a fait rentrer Toko et Cambi et Traoré. Alors justement, j'aimerais rentrer dans cette brèche parce que moi,
catastrophique.
En plus à Lyon, pour moi, il y a eu un manque d'ambition, réellement d'ambition, parce que faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais, depuis 2007, c'est une Coupe d'Europe à chaque année, c'est quand même pas rien, et que là sur un match, ils avaient une porte ouverte face à un PSG plus que moyen pour sauver leur saison, sauver leur club, sauver leur président, parce que c'est quand même des droits télé, des finances, c'est colossal ce qui s'est passé. Et pour moi, Garcia, avec ce que tu viens de dire, Pierre, il a manqué d'ambition. À un moment donné, il aurait dû pousser beaucoup plus à l'offensive parce qu'il y avait largement la place. Tu as raison, Kevin, tu l'as dit, il fait rentrer Toko Ekambi et Bertrand Traoré, que j'avais envie, excusez-moi, je pense que je les fais ressortir au bout de 5 minutes parce que t'as l'impression qu'ils étaient cuits, les mecs.
C'est impressionnant. La magie s'éteint quand ils sont sur le terrain, quoi.
Mais c'est interdit.
Mais surtout, encore que tu fasses rentrer ces joueurs-là, mais quand sur le banc tu laisses Adélaïde avec Cherki
et Ryan Cherki, c'est
non,
incroyable.
Mais là tu te dis, mais tu vois, rappelez-vous quand on parlait de Bielsa, comme quoi Bielsa était l'entraîneur le plus surcoté du monde. Mais pour moi, Garcia est l'entraîneur le plus surcoté du monde, même s'il a gagné des choses à l'inverse de Bielsa. Mais Garcia, ce gars, je suis désolé du terme, mais pour moi, quand je le vois coacher, manager et entraîner ses équipes, mais c'est une purge. À chaque fois, on lui file des beaux effectifs, comme il a pu avoir à Marseille, et punaise, il te transforme ça, on lui donne du caviar, il te fait une vieille confiture de pruneau, le gars. Non, mais je suis désolé, je trouve ça catastrophique. Mais ça me fait mal, et je te jure. Mais attends, nos auditeurs lyonnais qui doivent m'écouter, j'ai un paquet de copains lyonnais, je te promets. Et à chaque fin de match, mais tu verrais nos échanges, les messages qu'ils m'envoient. Mais les gars, s'ils pouvaient choper Garcia et lui péter sa Porsche comme les Nantais ont pu péter celle de Barthez il y a quelques années en arrière, mais les mecs, ils ont envie de le ruiner, quoi. Mais tu te demandes comment le mec il peut faire des choix comme ça.
Attention.
Et toi qui es lyonnais,
il faudra parler d'autre chose aussi, parce que Garcia, c'est une chose, mais il y a quand même Juninho et Jean-Michel Aulas qui l'ont choisi. Ils avaient quand même des pointures à prendre à côté, en allongeant un petit peu. Pourquoi on a pris Rudy Garcia, qui nous a rien proposé de plus que Silvinho, excusez-moi, hein, on finit 7e du championnat, même s'il n'a pas eu le temps de faire quelque chose.
C'est une cata.
Et excusez-moi, c'est une année qui ruine le club.
Ah, mais c'est clair.
Là,
c'est
clair. En un match, avec quoi, on va pas se mentir, hein. Depay, ça va être vendu. Aouar, ça va être vendu.
J'espère qu'ils Dembélé, ça va être vendu.
Voilà, ces joueurs-là, ils vont les vendre.
En fait, on se rend compte à Lyon qu'il y a un vrai problème. Pour moi, tu vois ce que tu as souligné, Melvin, c'est-à-dire que, bah oui, c'est le match pour l'Europe. Tu dois te défoncer sur le terrain. C'est... Tu dois tout tenter. Tu dois y aller à fond. Je suis désolé, mais il y a quelques années, Ola, ça fait le choix volontaire de se séparer de ces joueurs qui sont formés au centre de formation et de privilégier des joueurs venant de l'extérieur.
C'est vrai.
On a vu le départ massif de Umtiti, de Gonalon, de Lacazette. On n'a pas tous les cités. Mmh. Mais si tu avais eu plus de joueurs formés au club, peut-être que tu aurais eu un engagement différent aussi à ce moment-là. Là, c'est pour le coup, c'est pas la faute de Garcia, de ça, c'est pas la faute de Juninho, c'est la faute de Aulas, qui, comme j'ai dit la dernière fois, fait n'importe quoi depuis 10 ans. Donc, du coup, forcément, tu te retrouves avec des joueurs qui sont extérieurs. Bah, soit, effectivement, ils sont convaincus que le projet il peut aller loin et ils s'attachent après au club, soit ils en ont rien à foutre. Là, ils savent de toute façon que c'était simple, c'était soit ils jouaient l'année prochaine l'Europe avec l'OL, soit ils le joueraient avec un autre avec un autre club. Donc forcément,
je pense
c'est,
que
c'est, enfin, il peut pas être motivé.
Je pense que
tu as
raison, c'est une histoire d'identité parce qu'on l'a vu, ceux qui ont mouillé le maillot sans être bon ou moins bon, je sais pas. En tout cas, c'est Lopez, d'accord. C'est Cacré, le jeune Cacré qui a en tout cas essayé de donner du volume, même s'il a pas été exceptionnel non plus.
Et un autre. Après, il est limité, il est encore trop jeune.
Mais il est très jeune. Et un autre que moi j'ai trouvé bon, excusez-moi, mais c'est Maxwell Cornet qui joue pas encore à son poste à gauche, mais en tout cas qui a donné, qui a essayé. C'est peut-être un croqueur de feuilles, je suis d'accord.
Ouais.
Mais en tout cas, il a essayé de donner, de s'arracher.
Bon, Cornet. Il a des défauts, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas essayer.
Mais voilà, c'est ça.
Traoré, on se demande.
Non, Bertrand Traoré, il n'a pas essayé. Il n'a pas essayé. Bertrand Traoré, tu ne dois pas le faire rentrer. C'est une mascarade.
Et en plus, tu lui fais tirer le pénalty. Un pénalty qui. Bon,
il ne tire pas trop mal son pénalty. Hein. Navas fait quand même une grosse parade. Ouais, mais il y vend dilettante. Je suis d'accord avec toi.
Ouais. Bon. Mais après, oui, Kevin, je suis d'accord avec toi. Surtout que bon, j'ai beau être supporter parisien. Je pense que tous les auditeurs seront d'accord pour dire que l'Olympique Lyonnais a certainement le meilleur centre de formation de France, et ce depuis des années. Quand tu vois Benzema, quand tu vois Ben Arfa, quand tu vois Fekir, quand tu vois Lacazette, quand tu vois Aouar, quand tu vois Lloris, quand tu vois Cherki maintenant qui arrive, tu sais très bien que ce joueur, ce club, c'est une mine de
pépinière.
C'est une pépinière, quoi. Il y a pas d'autre mot. Et ce club-là, s'il arrive à garder ses joueurs, mais il peut faire de grandes choses. Et là, cette année, de mettre cet effectif aux mains de Garcia, parce qu'on pourrait parler, on en avait parlé de l'OL, mais si on se concentre et qu'on revient vraiment sur ce match, Garcia, il a encore mis en lumière à quel point aujourd'hui c'était une erreur de casting. Il fallait pas qu'il soit là, et pour moi le flop aujourd'hui côté lyonnais, enfin sur ce match, c'est Garcia, quoi.
C'est
Garcia.
Oui, je suis d'accord. C'est Garcia, d'accord. Quoi.
Eh bien écoutez messieurs, on va clore ce sujet parce qu'on est d'accord tous les trois, et ça pourra faire un autre sujet et l'occasion. On va parler justement, ça tombe très bien parce qu'on va parler d'un club qui gère très très bien en coulisses, tant du côté recrutement que du côté rachat, du côté entraîneur, hein, on va pouvoir échanger là-dessus. Messieurs, c'est l'OGC Nice. L'OGC Nice, qui vous le savez, avec la victoire du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne, est devenu européen. L'OGC Nice qui a réussi à recruter, qui a fait un recrutement pour moi très intelligent. Jean-Pierre Rivière qui revient au club, qui est pour moi un président que j'apprécie, qui est très bon dans sa communication, qui a une classe incroyable, qui a un aura pour moi qui est fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un club qui a tout pour réussir pour la simple bonne raison. Un bon président, un entraîneur peu expérimenté, mais il connaît quand même le football.
Il commence, mine de rien.
Il commence un nouveau stade qui est magnifique. Une situation géographique, il y a pire quand même que d'habiter à Nice pour les joueurs qui veulent venir.
Exactement.
Et en plus, ils sont européens. Comment vous voyez les choses du côté de l'OGC Nice? Comment vous voyez leur réussite? Est-ce que c'est grâce à Jean-Pierre Rivière? C'est grâce à Patrick Vieira? C'est un tout?
Moi, je pense que c'est un tout, et c'est surtout un club qui respire la stabilité. Là où aujourd'hui, on voit que c'est les chaises musicales, notamment sur le banc des entraîneurs. Alors Patrick Vieira, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien le personnage. Il a surtout su aussi ces derniers mois gérer des joueurs comme Balotelli. C'était pas une mince affaire quand même de gérer ce bonhomme-là. Il le fait sans faire de vagues, il le fait avec simplicité. Le mec il débarque pas en mode moi je suis champion du monde, moi ci, moi là. Je trouve qu'il a ce côté humble, il a ce côté simple que n'avait pas forcément un Thierry Henry que j'aime bien en tant que joueur, en tant que personnage. Mais tu vois, Vieira pour moi c'est l'anti Thierry Henry, c'est un bon entraîneur qui a apporté aussi sa stabilité. Tu parlais de Rivière, on sent que c'est un club qui marche par match, étape par étape, année par année, de manière logique et de manière progressive, avance, gravit les marches. Il en saute pas 4 pour en descendre 8 comme a pu le faire Monaco, qui se retrouve champion de France, qui se retrouve avec un effectif exceptionnel et qui l'année d'après retourne dans l'anonymat. Là t'as un OGC Nice qui étape par étape grandit, et pour moi le projet il est sain, il est viable. Attention, parce que oui, je suis d'accord avec vous sur le papier. Pour moi, tous les voyants sont au vert et l'OGC Nice l'année prochaine peut faire podium. J'ai pas peur de le dire. Après, quand tu peux comparer avec par exemple ce qu'avait pu faire Saint-Etienne, qui avait fait un bon recrutement l'année où ils font venir Mvilla, Debuchy, Cabaye. Là, il y a Schneiderlin qui est arrivé à Nice. Voilà, tout est bien, tout est au vert. J'espère que l'harmonie et que la mayonnaise va prendre, si je puis dire. Et que pour le coup, l'OGC Nice, avec l'effectif qu'il a, arrivera à atteindre ses objectifs européens. Ils le sont l'année prochaine, il y aura beaucoup de matchs, attention, mais j'espère sincèrement, parce qu'il y a une belle équipe, Et j'aime bien ce club, j'aime bien la manière dont il est managé, qu'ils arriveront à être européens encore l'année prochaine et qu'ils feront un joli parcours aussi sur la scène européenne parce que la France en a besoin. On le voit bien, ne serait-ce que pour faire remonter l'indice. Il faut que des clubs brillent sur la scène de la Ligue des Champions, mais aussi sur la scène européenne, comme l'avait pu le faire la Marseille il y a quelques années. J'espère, voilà. Sincèrement, mais j'apprécie ce club et j'aime bien ce qu'ils font. Ils le font de manière intelligente et j'espère que ça paiera l'année prochaine.
Toi, ton avis du coup sur le sujet, Kevin?
Bon, déjà, j'ai envie de rendre hommage à Jean-Pierre Rivère. Tu as très bien résumé la chose, Melvin. Il a la classe, il est simple, il est accessible. Il a la stature aussi du président. Bah, bon, monsieur Rivère, s'il vous plaît, venez à Lyon si Olas s'en va, parce que c'est beaucoup que je veux, moi.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est exactement ce qu'il faudrait.
À la tête de mon club, je veux un mec qui pense, qui est lucide, mais qui pense quand même grand. Il a toujours essayé de le faire. Il a souvent mis quand même les bonnes personnes aux bonnes places, je trouve. Donc, des recrutements toujours intelligents, soignés. Bon, là, Nice, forcément, a plus de moyens. Je vais mettre un petit bémol sur Patrick Vieira. Je suis d'accord sur les qualités humaines qu'il a. C'était les mêmes qu'il avait en tant que joueur. Un joueur très respectable sur le terrain. Et ce sera sans doute un entraîneur qui sera très respectable aussi. L'année dernière, on va dire qu'il a des circonstances atténuantes. Parce que Ineos rachète le club, je crois, à une semaine de la fin du mercato, ou presque.
Au mois d'août, c'est exactement.
Ils font des opérations un petit peu à la va-vite à la fin. Ils signent l'échec vite fait.
Avec
et les joueurs arrivent à la dernière minute. Donc, il n'y a pas vraiment la place pour Vieira de mettre en place quelque chose dès le début. Donc, c'est pour ça que moi, cette année, je n'ai pas été convaincu par le jeu Patrick Vieira à Nice.
C'est vrai qu'on
cette année,
on se rappelle
il a
que...
le temps.
Non, je disais juste, petit aparté, on se rappelle que Kevin, pour qu'un entraîneur soit bon, selon lui, il faut qu'il ait le temps de recruter 4 ou 5 joueurs pour pouvoir mettre en place sa vision du football.
Bah oui, au moins
c'est vrai.
Non, mais bah, après, chacun fera son avis.
Mais
pour
oui,
moi,
bon
si l'entraîneur, il n'a pas son mot à dire et tu lui colles des joueurs, si c'est pour pas qu'il les fasse jouer ou qu'il les utilise mal, ça sert à rien. Bref. Donc, du coup, là, Patrick Vieira a le temps. Il y a un recrutement qui s'est mis en place, qui est cohérent avec celui qui a été mis en place les années précédentes. Il y a des jeunes joueurs, il y a un beau stade, il y a tout ce qu'il faut. Ils vont être européens. J'espère du coup qu'on verra le talent de Patrick Vieira en tant qu'entraîneur. Il a eu des très bons exemples dans sa carrière parce qu'il a été coaché par Wenger, par Capello, par Roberto Mancini, par Mourinho. Il a eu en tout cas des belles références. C'est un joueur qui a connu le plus haut niveau. Donc, c'est tout naturellement que moi, je lui fais confiance pour cette saison. Attention, la marche est plus haute que l'année dernière. Maintenant, on va attendre la confirmation pour Nice.
Oui, il y a plus
d'attente. Ils arrivent quand même européens cette année. C'est presque, je ne vais pas dire que c'est pas mérité, mais pour moi, vu la qualité de jeu qu'il y avait, c'était pas ça. Donc, l'année prochaine, il va falloir monter le cran. Et surtout, pitié, Patrick Vieira. Écoute-moi, joue cette Europa League à fond, vitrine pour le football français.
On en a besoin.
C'est bon, quoi. Voilà.
Ouais, on en a besoin.
Après, moi, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé à l'OGC Nice, quand même, qui pour moi a tout changé. C'est Lucien Favre, hein, messieurs.
Ouais, totalement.
Parce que je pense que c'est certainement un des meilleurs entraîneurs sur les 10 dernières années qu'on a eu dans le championnat. Hein.
Ouais, mais complètement. Mais encore une fois, je suis désolé, je vais ramener à Lyon. Hein. Mais Olas, il a eu 10 fois l'opportunité de le faire venir. Je ne comprends pas.
Entièrement d'accord.
Pourquoi ça n'a pas été fait. Enfin, si je comprends pourquoi ça n'a pas été fait, c'est toujours la même chose. Il ne peut pas contrôler. S'il ne peut pas contrôler, il ne préfère pas prendre. Donc ça ne sert à rien. Mais oui, c'est un très bon entraîneur. Puel avait fait du bon boulot aussi à Nice.
Oui, complètement.
Avec les moyens.
Parce qu'il avait les jeunes. Il connaît très bien les jeunes, il sait les gérer. Ça, c'est vrai. Et vous avez vu le recrutement. Morgan Schneiderlin, c'est un pari, mais sans l'aide. Il n'a que 30 ans, Morgan Schneiderlin. C'est quand même jeune. Moi, un recrutement qu'on ne parle pas à Nice, c'est Hassan Camara, qui a fait une super saison avec Reims l'année dernière. Donc, c'est quand même très intelligent. Devant, ils viennent de piquer à Lyon Amine Gouiri. Hein, faut le savoir, Amine Gouiri, c'est quand même une pépite de l'Olympique Lyonnais. Et Ronny Lopez, bon, ça peut être tout beau comme tout moche.
Ouais, mais ils ont du flair ces dernières années. Je parlais tout à l'heure de Balotelli, mais rappelez-vous, messieurs Ben Arfa. Enfin, je veux dire, ils ont quand même su ressusciter, excusez-moi, certains joueurs. Et parce que quand tu vois Balotelli qui revient en championnat de France, quand ils le recrutent, on se dit c'est juste pour du médiatique. C'est comme Beckham qui arrive au Paris Saint-Germain, à toute proportion gardée, messieurs. Mais on se dit quand même que Nice a cette intelligence et cette faculté de ressusciter certains joueurs. Là, en l'occurrence, bon, Schneiderlin, je ne sais pas si on peut parler de le ressusciter, mais je pense qu'ils ont du nez. Ils ont du nez et c'est pour ça que je suis pressé vraiment, et je rejoins Kevin, ça me fait mal de le dire, mais je rejoins Kevin sur le fait de dire, putain, Vieira, fais-nous jouer cette équipe, parce que je pense que tel que c'est là, on peut avoir une belle surprise, un peu à l'image de l'Ajax ces dernières années, de l'Atalanta l'année dernière. J'espère qu'on aura de belles attaques, qu'on aura de beaux matchs, parce que si Vieira arrive à sublimer tout ça, je pense qu'il a tout à gagner, au même titre que le club. Il peut passer dans une dimension vraiment au-dessus.
Est-ce qu'on sait si Cyprien reste? Parce que ça aussi, ça peut conditionner la saison de Nice.
Alors, c'est vrai que j'ai regardé, c'est encore en discussion. Je pense que tu as entièrement raison. Ça fait partie, parce que si on arrive à jouer offensivement avec Cyprien, avec Casper Dolberg, avec un Ronny Lopez qui peut être bon, un Amine Gouiri, ils ont quand même un effectif offensivement qui peut être très très intéressant.
Sincèrement, je pense qu'il va rester. Le fait que l'OGC Nice soit européen, je pense qu'il va rester.
C'est ce que j'allais dire. Comme Lesmelou, hein. Il y a Pierre Lesmelou qui est un très très bon joueur également. Je pense honnêtement qu'ils peuvent faire quelque chose, même en championnat de France, aller sur les 5 premières places facilement.
Mais tu vois... vu les moyens qui ont été déployés et qui vont continuer d'être déployés par le groupe Ineos, ça devrait être l'objectif minimum maintenant. Hein.
Mais c'est des
ça va devenir un des clubs les plus puissants de France.
T'as dit quelque chose, le groupe Ineos, c'est quand même la plus grosse fortune de Grande-Bretagne. C'est énorme. C'est énorme. Et je pense que t'as raison, ça fait partie des clubs qui sont discrets, mais qui peuvent faire énormément de bien au foot français sur les prochaines années.
Exactement, qu'en plus, ils recrutent français. Je pense qu'il y a une envie aussi, et notamment en gardant des gens comme River à la tête du club, il y a une envie aussi de
pérenniser.
De pérenniser, puis d'ancrer aussi dans le foot français quelque chose. C'est pas business pour faire du business, on le sent. Donc il y a un vrai projet qui sur papier est intéressant. Maintenant, il ne faut plus que confirmer sur le terrain.
Mais en tout cas, ça c'est de bon augure pour la Ligue 1, parce qu'on avait parlé, rappelez-vous messieurs, de Saint-Etienne à la sortie de la finale, où on dit qu'ils ont un effectif, qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, et que l'année prochaine, ça peut sentir européen. L'OGC Nice, il y a le Paris Saint-Germain, forcément, Marseille, Lille, qui devra aussi confirmer malgré le départ de Zimène. Franchement, sincèrement, l'année prochaine, si tout se passe comme c'est en train de se passer, je pense que les 6-7 premières places, ça peut vraiment faire des beaux matchs et donner un petit parfum à la Ligue 1, quand même différent de ces dernières années, où on a le Paris Saint-Germain qui règne seul avec simplement la Ligue des Talents. Mais on parle de la Ligue des Talents et pas de la Ligue des Clubs des Talents, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est important. Non, mais c'est important d'avoir ces nouveaux phénomènes de clubs, entre guillemets, qui jouent la stabilité, qui jouent la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier, l'OGC Nice, c'est toutes les équipes de jeunes qui jouent en championnat national, qui sont toujours dans les trois premiers. C'est encore une finale de Gambardella il y a pas longtemps de ça. Ils ont été champions de France dès 18 ans il y a 2 ans. Donc voilà, ça reste quand même des effectifs qui sont costauds, qui sont présents, et un club qui vit plutôt bien depuis, j'ai envie de dire, l'arrivée, comme l'a dit Kevin, de Jean-Pierre Rivière, messieurs. Et je crois qu'on a tout dit sur le sujet, hein, messieurs. Hein.
Et ouais, c'était bien. Par contre, ça va pas, on est trop d'accord là.
Le plus chaud arrive.
On sait déjà qu'on va te perdre sur les pronostics Ligue des Champions, on essaie d'être ménagé.
Voilà, le plus chaud arrive. Donc, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale dans le RKS Foot Time Show, et on se retrouve dans un petit instant. À tout de suite.
Allez, à tout de suite.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Celebration.
RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, de retour, il est lundi 19h et des brouettes. Nous allons reprendre un sujet qui nous intéresse fortement parce que on va pouvoir débattre également. On va parler de la fin de carrière de Loïc Perrin, mais pas forcément de la sienne. Ses fins de carrière ratées, ses fins de carrière décevantes. Mon Kevin, qu'est-ce que t'en penses ? Loïc Perrin, c'est 470 matchs avec la Saint-Étienne. C'est une fidélité comme rare des joueurs peuvent l'avoir dans le football. C'est un joueur qui est plutôt élégant, qui a été bon, qui a été régulier.
Oui.
Et qui finit sur la pire des façons sur ouais. une expulsion, une défaite, la perte d'un titre, ce que vous voulez. Pour moi, c'est horrible.
Alors la question c'est plutôt qu'on va se poser, c'est est-ce que un geste comme ça.
Attends Kevin, on t'entend pas très très bien.
Ah, pourtant je vous jure que je sais pas grand chose. Hein.
Alors vas-y, essaye de reprendre.
J'ai pas bougé. Hein.
Vas-y.
Mais le réseau est capricieux.
Ouais, la réseau assez capricieux, mon Kevin. C'est vrai qu'on grésille un peu. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a l'impression qu'on est, c'est un stromboscope de paroles qu'on entend avec toi.
J'ai pas bougé, j'ai de
rebouger. Ce qu'on va faire, Kev, c'est qu'on va essayer de te rappeler, hein, dans
ouais.
un, dans un petit instant. Alors justement, ouais. on va démarrer avec Pierre. Pierre, toi, Loïc Perrin, je sais que t'es pas fan. Fais-nous ton analyse.
Alors Loïc Perrin, je sais pas que je suis pas fan parce qu'en soi, c'est pas un joueur exceptionnel, mais ça reste un besogneux, c'est un défenseur central, c'est pas un joueur techniquement exceptionnel qui va éclabousser d'une roulette, d'une panenka un match, mais bon, pour autant, il faut admettre que c'est un joueur qui a joué au plus haut niveau, qui a joué 470 matchs, comme tu le disais, Melvin, à juste titre. 30 buts, quand même. C'est pas mal pour un défenseur central, 30 buts au travers, donc au cours de sa carrière. Donc moi, entre guillemets, j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui cette fidélité, surtout, qu'il a eue tout au long de sa carrière. Après, bon, pour le reste, sur cette fin de carrière, sur ce geste qu'il a malencontreux, qui plus est occasionne une blessure pour Mbappé, qui est un des joueurs clés, à ça, moins de 3 semaines d'une échéance cruciale en Ligue des Champions. C'est sûr que bon, ça donne pas forcément une belle image de lui, mais je pense pas que ça éclipsera sa carrière. Quand tu fais un tacle qui est non maîtrisé comme ça sur un match couperé, sur un match important, sur une finale, il a mis de l'engagement, il y a eu un excès d'engagement, mais je pense que tu peux pas lui en vouloir, quoi.
Alors justement, Kev, je crois que t'es de retour avec nous. Ouais, il est de retour avec nous, Kevin. Non, pas encore, Kevin, de retour avec nous. Ouais, justement, est-ce que toi tu considères ça comme finalement, Pierre, un geste assassin?
Non.
Plus comme un geste vraiment non maîtrisé.
Quand tu regardes, il prend la cheville, mais il va quand même sur le ballon. Il touche le ballon avec un de ses deux pieds. Donc le geste est non maîtrisé. Il est par derrière. Mais on sent pas une intention de nuire ou de blesser. C'est pas l'objectif. Il sait très bien que Mbappé, en une touche de balle, il peut te mettre 10 mètres. Et ce qu'il veut, c'est absolument toucher le ballon en premier. Parce qu'il sait très bien que si Mbappé touche le ballon avant lui, il sait très bien que ça part au but. Et avec Mbappé en face à face au gardien, il sait très bien que derrière, ça fait 1-0. Donc il veut surtout, enfin en l'occurrence 2-0. Donc il veut surtout, à mon avis, faire en sorte d'arriver le premier sur le ballon. Et bien forcément, les jambes de Loïc Perrin, c'est pas celles de Kylian Mbappé. Ça, on le sait tous.
On est d'accord.
Malheureusement. Et donc voilà, pour le coup, ça fait un geste dangereux. Il prend la cheville quasiment avec l'arrière de sa cuisse et avec ses fesses. Donc on voit bien que c'est dans la continuité de son geste. Il ne met pas les crampons sur la cheville de Kylian Mbappé. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est que quand tu vois l'image, même si elle est douloureuse pour Mbappé, pour moi, voilà, c'est un excès d'engagement. Et c'est dangereux, mais ça ne viendra pas éclipser. Ce n'est pas comme s'il a émis un coup de poing
ou
un coup de tête à la Zidane, à la Materazzi.
Ouais. Bon, on en parlera. Voilà.
C'est un excès d'engagement, mais ça ne viendra pas ternir sa grande carrière.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon Kevin? Ça a été de retour avec nous.
Pardon, désolé. Je pense que ça ne ternira pas parce que ça a été un exemple de longévité. C'est quand même aujourd'hui longévité, une telle.
Essaye de bouger, mon Kevin. Je suis vraiment désolé parce que c'est vrai qu'on t'entend pas, on t'entend quasi pas, ou du moins on t'entend en morse, hein, qui est un nouveau mode de communication.
Mais je sais pas quoi faire là parce que je vais vraiment plus descendre de tout le camping.
Là t'es bien.
Bon, je bouge plus.
Bouge plus. Vas-y, allez.
Voilà. Donc je disais, on peut pas lui en vouloir parce.
Non, bouge. Bouge. Bouge, mon Kevin, parce que là on t'entend pas du tout. Ah bah écoutez, on l'entend plus. Bon. Je vais faire, on va voir là s'il revient. Kevin, n'hésite pas à me couper, hein, si en bougeant tu nous entends mieux. Moi, mon avis sur Loïc Perrin, c'est une carrière qui est plutôt bonne, c'est une carrière qui est sereine, qui est l'exemple, comme tu le disais tout à l'heure, on en discutait en off, qui est un peu l'anti-chambre du football, parce que il est pas clinquant. Il n'est pas du tout dans les paillettes, dans le bling-bling. C'est plutôt un joueur qui est stable. C'est un joueur qui aime le football. C'est un joueur qui respire football. C'est un joueur qui respire la fidélité, parce que ça, c'est quand même rare. Moi, la seule chose que je trouve difficile, et pour ces joueurs-là, c'est vraiment de finir une carrière comme ça où c'est même pas un sacrifice, comme par exemple Raphaël. Raphaël, lors du match de la finale de la Coupe de la Ligue, s'est sacrifié. Finalement, je pense qu'il a bien fait de prendre un carton rouge parce que ça aurait pu être un 1-0. Il s'est sacrifié. Loïc Perrin, c'est un geste qui est non maîtrisé. C'est un geste qu'il aurait effectivement pas dû faire, parce qu'il était certain que face à un joueur comme Kylian Mbappé, c'est peine perdue, il va plus vite.
Ouais, mais je pense qu'il le fait pour ça, Melvin. Il le fait parce qu'il sait très bien que si Mbappé a une touche de balle, ça fait comme sur le premier but, il va le transpercer. Littéralement, il va le transpercer. Et il veut absolument toucher le ballon avant lui. Et il met tout son corps, ses quelques kilos en trop, pour arriver le plus rapidement possible sur le ballon. Et ça fait mouche, quoi.
Je suis d'accord avec toi, mais après, est-ce que c'est... Alors justement, est-ce que ça signait sa fin de carrière en se disant qu'il est plus capable, il a plus les capacités, il a plus la vivacité, il a plus la vitesse? Mais ça n'empêche pas que moi, pour un joueur avec cette carrière-là, je trouve que c'est une fin de carrière qui est horrible. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réaction des Parisiens et des joueurs stéphanois, puisque tous sont venus le saluer, tous sont venus le remercier. Il a même été applaudi pendant qu'il sortait.
Oui, ça c'est du fair play, c'est bien. Voilà, c'est très très bien.
Moi, ce que j'aimerais avoir. Ton avis, et j'espère qu'on va réussir à récupérer Kevin là-dessus, ça me fait penser à Zizou, une carrière, loin d'être la carrière de Loïc Perrin, on est bien d'accord, hein, parce que Zizou c'est une carrière monstrueuse, c'est des Ligues des Champions, c'est champion du monde, c'est une carrière magnifique, et je vais pas vous mentir, Zizou, vous savez comment il a fini sa carrière, il a fini sur un coup de boule sur le torse de Materazzi. J'ai beau aimer la France, j'ai beau aimer Zizou du mieux que je le peux, je lui en voudrais toujours.
Ouais, non, mais c'est clair.
Parce que ce qu'il a fait Zizou, je vous dis franchement, on joue tous au football ou d'autres sports, on se fait insulter tous les week-ends. On prend les bons joueurs comme Neymar ou quoi, ils en prennent dans la cour, sur les jambes, tous les week-ends. Comment on peut craquer, et c'est ça que je veux avoir ton avis, là, Pierre, là-dessus, j'espère qu'on aura Kevin. Comment on peut craquer autant en finale jusqu'à se faire expulser, jusqu'à quasiment gâcher toute sa carrière et toutes les choses bien qu'on a pu faire comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
La force de Zidane dans tout ça, c'est que derrière, il a su rebondir sur une carrière d'entraîneur pour savoir aussi mettre un petit peu... pour pouvoir éclipser un petit peu ce qu'il a pu faire ce soir-là. Après, pour moi, Zidane, tu vois, l'inverse de Loïc Perrin, pour moi, c'est une faute professionnelle. Parce que ça n'a rien à voir avec le sport. Quand tu mets un coup de tête à un autre joueur, comme tu le dis, que ce soit même dans le rugby. Moi, j'ai des copains qui me disent tous les week-ends dans le rugby, on se prend des fingers dans les mêlées. Dans les fingers, ça veut dire hop, on te met un doigt dans le cul. Enfin, je veux dire, et ces joueurs-là, ils arrivent à garder et à se concentrer. Et quand tu joues une finale de Coupe du Monde, tu es dans le top niveau. J'ai eu la chance par le passé d'échanger, de discuter aussi avec des joueurs professionnels, mais aussi avec des arbitres professionnels. Ce qui fait avant tout la force d'un joueur professionnel, c'est sa faculté à se maîtriser. Sa faculté à se maîtriser et à se concentrer et à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi et de tout ce qui se passe sur le terrain et vraiment de te focaliser seulement sur le jeu. Donc tu vois, à l'inverse de Loïc Perrin, pour moi, Zinedine Zidane, quand il fait ça, c'est une faute professionnelle. Bien sûr, ça vient pas éclipser, mais sur le moment, moi, je crois que j'ai dû pleurer pendant 48 heures derrière une fois qu'on perd la Coupe du Monde quand même sur ce fait de match.
Bon, Kevin, ton avis sur Zizou, sur sa fin de carrière? On disait que justement, moi je disais que je pouvais pas pardonner à Zizou sur ce qu'il avait fait, sur son coup de tête. Non, mais c'est vrai, ça me rend fou. Il m'a rendu fou, Zizou, sur ce coup de tête, tu te rends compte? Alors après, il va dire ouais, mais il a insulté ma sœur et tout. J'avais envie de lui dire, mais moi aussi, je suis allé jouer en Vaulx-en-Velin en district, je me suis fait insulter tout le match. Tu vois ce que je veux dire? Comment un professionnel peut, et j'ai envie de parler qu'on en parle d'un autre, mais comme Patrice Evra, qui va me mettre un coup de latte à Bruce Lee sur un supporter. Mon Kevin, comment on fait quand on est pro avec un niveau comme ça pour craquer de cette manière? Là, on t'entend toujours pas, on va y arriver.
C'est tombé, hein.
Vas-y, là je t'entends. Non, je t'entends plus, mon Kevin, je suis vraiment désolé. On n'aura pas son avis.
C'est triste parce qu'en plus, lui, il était objectif sur le sujet, vu qu'il est supporter italien.
C'est vrai, il est supporter italien. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est comme Patrice Evra, c'est des craquages. Mais moi, j'estime que...
Mais là, c'est de la faute professionnelle, parce qu'il n'y a rien de sportif. Tu sais, au plus haut niveau, il y a du vice. Ramos, c'est le vice incarné. Mais c'est le vice en bonne intelligence. Quand il prend des cartons jaunes, parce qu'il faut prendre des cartons jaunes pour un match de suspension sur un match retour où tout est fait, quitte à se montrer un peu grossier par rapport à la manière dont il le fait. Je veux dire, Ramos, il a le vice. Et tous les grands joueurs, tous les joueurs d'expérience, quand on parle de victoire à l'expérience, mais c'est ça. Il faut avoir du vice.
Parce que ce qu'il a eu, on va se dire franchement, ce qu'il a eu, c'est une réaction humaine. Mais humaine, quand on a un professionnel comme Zinedine Zidane ou comme Patrice Evra, pour moi, c'est interdit. Ça peut pas exister. Tu peux pas faire de tels gestes devant. Je sais pas combien il y avait combien de millions de 200 de je sais pas. Il y avait des millions de téléspectateurs. C'est le dernier match de sa vie. C'est le joueur qui peut faire la différence pour faire gagner une Coupe du Monde à un pays.
Et puis qui fait une panenka juste avant exceptionnelle.
Non mais c'est ce que
qui aujourd'hui encore est le plus beau but de la Coupe du Monde, donc de tous les temps. Donc tu peux pas passer de ça à... Même lui aujourd'hui, je pense qu'il doit encore revivre la scène en se posant la question du pourquoi il a fait ça. Après, à l'époque, il le fait, je pense qu'il veut juste lui mettre un coup de tête. Je pense qu'il a pas dans sa tête que Materazzi va se jeter en arrière comme
Exactement.
Ça. Je pense qu'il maîtrise mal son geste. Il a envie de lui mettre un coup, mais je pense qu'il pense pas que Materazzi va faire un salto en arrière comme ça. Il le tape à un endroit où... Bah voilà, il a une projection, ça coupe le souffle à l'autre, l'arbitre de touche le voit. Je pense que tout ça, il ne le maîtrise pas, mais à ce moment-là, il découpille. Et c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle qu'à mon avis, à ce niveau-là, tu ne peux pas le faire. Moi, quand j'étais jeune au basket, on ne jouait pas au même niveau, on n'avait pas cette même pression, mais ça m'arrivait souvent d'avoir mon entraîneur qui me connaissait, qui savait que j'avais cette faculté d'aller titiller, d'aller énerver les autres joueurs. Quand il y avait un joueur qui était trop bon, il me demandait de le sortir. Mais comment je le sortais ?
T'étais une petite vicieuse,
Je le sortais en lui baissant le short sur un rebond, je le sortais en le bousculant, je le sortais avec du vice. Mais tu peux le faire quand tu joues en KD France, tu peux le faire quand tu joues en Minime France, mais quand tu arrives sur une finale de Coupe du Monde, tu ne peux pas le faire. Et pour moi, par contre, tu vois, pour revenir au sujet initial de Loïc Perrin, ça n'a rien à voir. Voilà. Zinedine Zidane, c'est une faute professionnelle, il n'aurait jamais dû le faire. Ça a terni momentanément sa carrière et aujourd'hui, avec le temps, on retient que le meilleur de lui. Mais ça restera pour moi quelque chose de très douloureux, comme pour beaucoup de supporters et à mon avis d'auditeurs.
C'est ça.
Loïc Perrin, voilà, c'est un excès d'engagement. Il se dit avec son expérience que si Kylian touche le ballon, ça fait 2-0. Il sait que le break sur une finale, après derrière, c'est quasiment impossible à remonter. Donc, il se donne. Sur le moment, je pense pas qu'il pense se sacrifier. Je pense pas que ça va finir sur un carton rouge. Et après, bon, mea culpa. Même lui, il l'admet qu'il y a eu un excès d'engagement. Les joueurs stéphanois l'admettent. Et puis voilà, on espère juste qu'une chose, c'est pour lui aussi hein, d'ailleurs, hein, que Kylian Mbappé se remettra. Je pense que Loïc Perrin, en bon professionnel, en bon père de famille, il attend qu'une seule chose, soit là pour l'Atalanta.
Les tweets du PSG. Hein, qui disent qu'il n'y avait pas de soucis, c'est pas grave.
Le père de Mbappé a communiqué.
J'ai trouvé ça très intelligent. D'ailleurs, dès qu'il fait la faute, Loïc Perrin va s'excuser. Il va voir Mbappé tout de suite quand il prend son carton rouge pour savoir si ça va. Voilà, ça respire le monsieur. Ça aurait pu être quelqu'un qui dit c'est bon, Mbappé, il a carré, il a le boulard, je le laisse avec sa cheville, il ne va pas jouer la Ligue des Champions. Non, ça a été très classe de la part de Loïc Perrin. Eh ben écoute mon Pierrot, tu sais ce qu'on va faire. On va se refaire une petite pause musicale.
Allez.
On va essayer de récupérer votre animateur de Rien à Foutre, notre Kevin. On va essayer de le récupérer pour parler justement des pronostics de LDC parce que c'est là où il va y avoir de l'animation, où je pense qu'on va pouvoir se lever sur la table des studios et...
Ou là on perdra Kevin, mais peut-être pas pour des raisons techniques.
Mais voilà, peut-être pas pour des raisons techniques. Exactement. Petit bijou, moi, que j'aime beaucoup, c'est Come Back to Me de Kenny Williams. À
et c'est valable pour Kevin.
Sur RKS.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. I told some lies and made you cry. Broke your heart. What a foolish guy. Played with your head. Cheated in bed. And though you knew, not a word you said. Now I'm begging you, baby, please come back to me.
Back. By the phone, sit all alone, waiting for you.
I'm begging you, baby, please, just come back to me. Back to me.
Foottime Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, on est de retour dans le RKS Foottime Show. Normalement, on a retrouvé notre Kevin. Kevin, est-ce que t'es là ?
Je suis là.
Alléluia !
Désolé, hein, je sais que c'est pas agréable pour les auditeurs, hein, désolé.
Ah,
surtout
mais c'est...
que écouter des monologues de Pierre, je...
Ouais, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave.
Ouais. Au moins, t'as visité le camping, Kevin.
Voilà, c'est ça.
T'as fait 7 fois le tour.
Bon, Kevin, j'aimerais que tu dises quand même un petit mot pour clore le sujet sur la fin de carrière d'Loïc Perrin et pourquoi pas aussi sur celle de Zizou. Que nous...
Non, bah, voilà. En fait, pour moi, Zizou, Evra et Perrin, c'est d'un côté, on a effectivement les castagneurs et d'un côté, on a quelqu'un qui, de toute façon, je pense, n'avait pas trop le choix de faire ce geste-là. Mm. Alors, je pense pas que Loïc Perrin. Et il a eu de faire mal parce que son geste, je trouve pas qu'il est pas maîtrisé, il est simplement en retard. Parce que les pieds sont décollés du sol, on voit bien qu'il a pas envie de lui faire les genoux. Par contre, bah Mbappé, de toute façon, 9 fois sur 10, c'est en retard hein, sur lui. Hein.
Donc, mais c'est ce que je disais. 10,
bah, t'es obligé. T'es obligé de
il va
de
trop vite.
Et parce qu'il va trop vite. Donc si tu y vas, et au moins il y est allé. Sinon, tu fais quoi? Tu le laisses passer, tu le laisses marquer? Bah non. Donc moi, on reproche justement aux Lyonnais, par exemple, de pas avoir tout fait pour essayer de gagner le match. Bah tu vois, Eric Perrin, il a tout fait pour essayer de faire en sorte que son équipe, elle évite de prendre la valise, quoi. Donc voilà, c'est sûr que c'est dommage de quitter sur un carton rouge, mais je pense que il faut pas lui en vouloir parce que c'est pas un geste qui est totalement disproportionné.
Il est pas maîtrisé, c'est tout.
Lui faire mal. À la différence de Evra et de Zizou, qui eux sont soumis quand même sur des actes de violence, et ça il faut les condamner et à aucun moment. Faut les justifier. Alors Zidane, on pourra me dire oui, mais toi tu dis ça parce que t'es pour l'Italie. Et je m'en fous en fait. C'est même pas ça.
Alors
aujourd'hui, n'importe quel geste et n'importe quelle forme de violence sur un terrain, quel qu'en soit, mais même dans la vie, hein, mais quel qu'en soit le motif, il ne faut pas céder à ce type de violence-là, sinon c'est l'anarchie.
Alors après, entre Zizou et Evra, t'as quand même un qui est plutôt bête, hein. On est d'accord avec
toi. Oui, non, mais voilà, d'accord.
Qui agit
d'accord.
Par la bêtise. Zidane, je ne sais pas comment il agit. Oui, c'est un moment de bêtise, mais c'est loin.
Non, mais voilà. c'est pas une bêtise, Zidane. C'est un coup de sang. Voilà, c'est un coup de sang.
Exactement. Mais il n'avait pas le droit.
Mais t'as pas le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, demain, Melvin, t'es dans un feu rouge. J'en sais rien. Le feu passe au vert et puis tu vois que la voiture qui passe à côté, elle te grille la priorité. Et tu fais quoi, toi? Du coup, tu t'énerves, tu lui mets un coup de boule. Bah non.
Non, je suis d'accord avec toi.
Ça t'énerve. Tu laisses passer. À la limite, Zidane, j'aurais préféré qu'il finisse le match avec le dénouement qui aurait pu changer certainement.
C'est possible.
Et, soit il aurait eu une magnifique revanche sur Materazzi en disant bah, tu vois, tu m'as insulté tout le match, mais moi, regarde, je la soulève et toi, tu pleures. Mm. Ou alors, à la limite, de dire bah, tu sais quoi, on en parle à la sortie. Hein, et puis, à la limite, s'ils veulent régler leur truc, ils règlent dans les vestiaires comme des hommes et loin des caméras parce que c'est quand même un des événements les plus médiatisés dans le monde.
C'est ce qu'on disait. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, allez, on va clore le sujet et puis on va basculer sur le sujet qui nous intéresse tous parce que là, ça y est, ça commence dès vendredi, je crois, ou dès vendredi, samedi.
Ouais.
C'est ça. Hein.
C'est ça.
Voilà. Des huitièmes de finale de la fin, du coup, de cette première phase finale de la Ligue des Champions. Je vais rappeler les matchs qui vont avoir lieu. Faut le savoir, donc, on va assister au FC Barcelone face à Naples. Il y avait eu 1-1 à l'aller du côté de Naples. On va assister à la Juventus de Turin face à Lyon. 1-0 à Lyon pour l'Olympique Lyonnais au premier match. Et on va assister au dernier match qui était Manchester City face au Real de Madrid. Et City est allé s'imposer au Real. Messieurs, on a pour moi dans ces matchs la quasi-totalité des favoris, puisqu'il y a le Bayern de Munich face à Chelsea, le FC Barcelone, la Juve et le Real, et même Manchester City. Messieurs, quels sont vos pronostics? Quels sont vos avis par rapport aux dernières prestations de ces équipes-là en championnat? Qu'est-ce que vous en pensez,
Kevin? Pierrot, tu veux attaquer? J'attaque. Allez, j'attaque.
Ouais, vas-y. Allez, j'attaque. Allez.
Bon, pour moi, vas-y, je t'en prie.
Pour moi, sur les derniers matchs, on peut pas dire que la Juve ait été brillante. Au final, moi j'ai l'impression, en fait, je vois un peu ça comme ça. L'Espagne a fini bien avant les autres et l'Angleterre a fini avant l'Italie. Donc ça veut dire que les équipes anglaises et espagnoles qui sont encore engagées, elles ont pu focaliser leur préparation sur ces matchs-là. Et donc, à peut-être un peu mieux les préparer avec des séances peut-être adaptées, plus le temps d'étudier leur adversaire, etc., etc. Qui n'a pas été le cas pour les équipes italiennes en particulier qui sont encore engagées. Donc pour moi, ces équipes-là, notamment les équipes espagnoles et le Real en tête, a un avantage sur les autres. Le Bayern aussi a fini bien avant, donc a aussi un avantage d'un point de vue préparation, tout comme les équipes françaises aussi, parce que quelque part, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, mais ça peut leur jouer des tours. On a bien vu justement le manque de rythme sur 90 minutes ou même plus, hein, parce que s'il y a besoin de plus, il faudra faire plus aussi. Pour les équipes françaises, ça sera pas facile du tout. Donc moi, je reste sur les pronostics que j'avais fait déjà il y a deux semaines. Hein. C'est-à-dire que pour moi, le gagnant entre City et le Real, je pense, ira en finale et se retrouvera en face. Alors soit du PSG, si le PSG montre qu'ils sont ils sont là et qui jouent à leur niveau, donc voilà. Mais voilà, moi je reste là-dessus, et le Bayern bien évidemment peut avoir aussi sa carte à jouer, mais je sens peut-être plus le City et le Real ces dernières semaines.
Ok, et toi mon Pierrot?
Sur les matchs retour des huitièmes, il y a réellement que trois matchs, hein, on s'accorde là-dessus.
Le Bayern s'est plié, mais 3-0. Ouais. Quoi que Chelsea soit sur une grosse forme, mais il faudra vraiment un miracle.
Pour moi, il n'y a pas de match. Le Bayern, forcément, ira en quart. En plus, le Bayern, je crois, a gagné à l'extérieur 3-0. Donc, il faudrait que Chelsea nous fasse une remontada. Je suis d'accord que Giroud.
Ça, c'est que contre Paris.
Je suis d'accord que Giroud est dans une bonne forme. Après, j'ai du mal à imaginer Giroud mettre 4 buts au Bayern, surtout vu l'état de forme du Bayern. Donc, pour moi, il y a réellement que 3 matchs. Il y a le match de Juve-Lyon, il y a le match Manchester City-Real et le Barça-Naples. Barça-Naples, sauf grosse surprise, Barça devrait passer. Hein, Barça joue chez lui.
Ce sera pas si évident.
Après, ils sont en
ballotage favorable.
Ils sont en ballotage favorable parce qu'ils ont marqué à l'extérieur. Ils jouent au Camp Nou. Pour moi, je pense que le Barça n'aura pas de soucis pour se qualifier.
Naples a bien fini quand même.
Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, ça sera pas évident. Hein.
Écoute, en tout cas, moi, sur les deux autres matchs, pour moi, par rapport aux deux autres matchs, si je fais crescendo Bayern, pour moi, il n'y a pas de sujet. Barça, il y a peut-être un match contenu quand même d'un score assez serré à l'aller, mais pour moi, le Barça passera. Après, moi, mes deux interrogations, elles portent sur les deux derniers. Juventus-Lyon, parce que la Juventus fait peut-être un record d'avoir gagné 9 championnats consécutifs, mais elle finit sur un triste record du nombre de défaites et de nombre de buts pris sur les derniers matchs. Donc la Juve est certainement dans une de ses moins bonnes formes de ces dernières années actuellement. Et Lyon, pour le coup, fait quand même un match cohérent par rapport au Paris Saint-Germain, gagne contre le Celtics, gagne contre la Gantoise. Bon, sont quand même avec Lopez qui est pas trop mal, même fils qui revient. Donc bon, pour moi, Lyon devrait passer face à la Juventus, mais ça reste assez serré. Et Manchester City Real, Manchester a fait un super match à l'aller, a fait déjà le plus dur, mais pour moi le Real devrait passer, je pense. Donc moi, mon pronostic sur ces 4 matchs, c'est dans les vainqueurs Lyon, le Real de Madrid, le Bayern et le Barça.
Bon, alors moi, je vais pas être d'accord avec toi. Je vois Manchester City très fort. Mais ils ont gagné 2-1 à l'extérieur, 2-1 pardon à l'aller. Je pense qu'ils vont créer la surprise au Real avec un match nul là-bas. Je vois vraiment Pep Guardiola galvaniser ses joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui risquent de quitter City, qui ont envie aussi d'aller chercher cette victoire. Mon avis sur la Juventus et Lyon, c'est difficile parce qu'il y a entre la raison et le cœur pour l'Olympique Lyonnais. Ces deux équipes qui sont depuis la reprise et là sur ces derniers mois qui sont catastrophiques dans le jeu. Donc j'ai envie de dire que c'est la première équipe qui marquera, à mon avis, qui fera la diff. Parce que si Lyon marque, c'est simple, la Juve va devoir marquer 3 buts, donc ça sera compliqué, mine de rien. Si la Juve marque en premier, je ne suis pas sûr que l'Olympique Lyonnais aura les ressources de rattaquer, directement et avec l'ambition qu'on a vu complètement manquer face au Paris Saint-Germain. Voilà, moi j'ai un coup de gueule, messieurs, qui a quasiment rien à voir, mais j'ai quand même un coup de gueule, c'est cette programmation de ces matchs, puisque faut savoir, mon Kev, je sais pas si tu l'as vu, les matchs sont en même temps, d'accord, faut savoir que le Real Madrid face à City et la Juve face à Lyon, c'est à la même heure, au même moment, je trouve ça quand même dommage pour les téléspectateurs quand on connaît le prix des abonnements télé. C'est quand même des matchs qui vont être fabuleux à suivre. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis comme un fou là depuis Paris Saint-Étienne, depuis la dernière journée de Première Ligue. J'ai envie de revoir du foot à la télé, j'ai envie de revoir de la folie. Et c'est ça que je voulais vous parler.
C'est un scandale.
Mon Kev, est-ce que tu penses que toi, on va voir du football pendant ce Final 8? Est-ce que c'est la bonne formule pour justement voir du football sur un match au même endroit? Est-ce qu'on va se régaler ou on va se dire c'est vraiment une saison de merde, le coronavirus il nous a bouffé la saison, ce Final 8 c'est une connerie, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis, messieurs.
Le terrain parlera. Moi je trouve ça très compliqué de faire un bilan maintenant sur cette saison. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura été vraiment anormale. Je suis un peu d'accord avec toi sur la programmation des matchs. On aurait pu au moins faire un match à 18, un match à 20, et puis voilà. Mais pour moi, on aurait pu faire ça. Après, maintenant, ça a été fait comme ça. De toute façon, ça a été fait à l'arrache. Même moi, pour moi, si c'était pour jouer des matchs de Ligue des Champions au mois d'août, alors que les championnats de Ligue 1 vont pas tarder à attaquer mi-août, fin août, pour moi, c'était pas la bonne solution. De toute façon, tout a été mal fait. Même les matchs, au final, les équipes elles se sont retrouvées. C'est pour ça on parle souvent aussi des blessures, notamment chez des grands clubs comme le PSG, comme la Juve, etc. Mais il faut savoir que y a eu 3 mois d'arrêt, 2 mois d'arrêt de foot, où il n'y a pas eu de foot. Moi, j'ai eu reçu un mec dans Rien à Foutre qui s'appelle Damien Padilla, qui me parlait justement de ça. Il dit, mais quand vous dites à votre corps que pendant 2 mois, vous ne faites pas de sport et que vous rattaquez à fond pour attaquer la compétition et qu'en plus vous rattaquez avec un rythme de 3 matchs par semaine, mais on peut pas valider ça pour la santé des joueurs, on peut pas valider ça, c'est pas possible, c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi ça va être bizarre et je pense que la saison prochaine va être bizarre aussi parce que des joueurs en fait ont eu leur trêve estivale pas au bon moment, du coup là ils ont pas eu de trêve estivale, ils vont rattaquer du coup direct au cul du camion le championnat. Un championnat en plus qui va être ponctué à la fin de l'année prochaine d'un euro, mais ça va être, je pense,
physiologiquement, ça va être très compliqué.
Ouais, très compliqué.
Bon, messieurs, on a clos ce sujet, le sujet qui nous intéressait, et on va finir par notre traditionnel petit quiz. Ça y est, je vous le dis tout de suite, je fais rentrer les supporters. Les supporters, ils sont là, ils sont dans les vestiaires. Ça y est, on est chaud, on est dans le stade, dans le RKS Stadium. Mon Kevin, c'est toi qui as préparé le quiz aujourd'hui.
Ouais, c'est moi qui ai préparé le quiz. Est-ce que vous m'entendez là ?
Là, on t'entend très bien.
Bon, c'est parfait. Allez.
Allez, c'est parti. T'es prêt, Pierrot ?
On y va pour un
la force
quiz.
Tranquille.
Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Alors, combien de ballons d'or a remporté Zinedine Zidane ?
Un.
Oui.
Et voilà !
On m'avait coupé mon micro, j'avais
répondu
avant.
Non, il est là,
j'avais répondu avant. On m'a coupé mon micro.
Ah là là.
Pierre, il dort.
Mais tu verrais ses petits yeux, là. On est un petit chinois avec
j'ai
nous.
J'ai pas dormi de la nuit avec ma fille.
Allez, mon
Kev. Dédicace à ma fille de 3 semaines, merci.
Oh, bisous à ta fille.
Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait toujours bizarre de me dire que Zidane a gagné qu'un seul ballon d'or, alors que tout le monde dit que ça a été pour certains, c'est le meilleur joueur qu'ils ont jamais vu, etc.
Non.
Qu'un seul ballon d'or, qui finit. Alors, ça m'amène à ma deuxième question. Il finit deuxième en 2000, mais qui gagne le Ballon d'Or cette année-là ?
En 2000?
Ouais.
Putain, c'est pas Cannavaro.
Beckham?
Non, jamais
Pirlo.
Beckham.
Ronaldo?
Non.
C'est pas Ronaldo?
Non.
C'est pas Andrea Pirlo, c'est pas Cannavaro. Pavel Nedved.
Il a joué avec Zidane.
Pavel Nedved.
Non, il a jamais joué avec Zidane.
Pavel Nedved avec Zidane à la Juventus?
Non.
Oh là là, au Real de Madrid, ça veut dire. Roberto Carlos?
Non, il a été l'objet d'un transfert très controversé.
Très controversé.
Et les supporters de Barcelone veulent encore.
Les supporters
d'Iniesta?
Il portait le numéro 10.
Ronaldinho?
Non.
Rivaldo?
Non, au Real.
Ah, au Real. Raoul?
Non, c'était le numéro 7. Putain, vous êtes nuls.
Raoul, oh là là. Beckham. C'est pas possible, c'est en train de m'énerver.
Il était portugais.
Il était... Figo?
Oui.
Figo. Figo.
Papa.
Pouah, qu'est-ce qu'on est mauvais.
Qu'est-ce qu'on
a
été mauvais là, c'est catastrophique.
Oh là là, c'est
bon, en fait, je voyais sa coupe de cheveux, mais j'arrivais pas à le sortir.
Luis Figo.
Non, je suis sûr que les auditeurs, ils devaient être dans la voiture en disant « Mais putain, mais c'était Figo depuis 2 heures !»
Mais ouais, mais en même temps, Luis Figo, je peux pas imaginer qu'il ait un ballon d'or aussi.
C'était un sacré joueur. Aussi.
C'était un sacré joueur, sacré joueur. Allez, ouais. Mon Kevin, peut-être la question finale.
Alors là, par contre, je vais vous poser la question une fois chacun, d'accord? Et aussi bien vous marquez un point tous les deux si vous y arrivez.
Allez.
Aussi bien, il y en a qu'un qui va y arriver, ok?
Allez.
Attends, comment tu veux faire?
Je commence par Pierre parce que il est.
Parce que je suis le tenant du titre et que j'ai gagné deux fois de suite sur les dernières émissions.
Voilà.
Allez, merci.
Pierre, je veux que tu me cites, sans regarder ton téléphone, 5 joueurs de l'Atalanta.
Oh là là. Vas-y,
allez,
attends.
Tu peux déclarer forfait. Hein.
Ouais, vas-y, c'est bon. Commence par Melvin.
Bon, bah Pierre, il a perdu. Allez, vas-y, Melvin.
Ah, de l'Atalanta, j'ai Ilic, c'est tout. C'est le seul que je connais.
Je crois que c'était. En fait, tu m'as dit.
Pas correctement.
Je sais pas, Ilic, c'est un truc comme ça.
Ouais, Ilic.
Ah, voilà, je prends un point ou pas?
Oh là là, putain. Non, personnel point, ça va pas non
plus. On n'est pas bon.
Non, mais 5 joueurs de l'Atalanta, non, je les ai pas, moi.
Oh, attends, ils vont jouer contre ton club bientôt.
C'est vrai, en plus.
J'aurais sorti 2 attaquants, mais 5, jamais je te les sors, quoi.
C'est pas possible. Oh. Allez, mon Kev,
on y va.
Il peut encore y avoir une égalité pour la première fois.
Alors, qui a dit, quand j'ai rencontré Sir Alex Ferguson, c'était comme si je rencontrais le pape?
Eric Cantona.
Non.
Wayne Rooney.
C'est un entraîneur.
Wenger.
Non.
Oh putain.
Il a entraîné en Allemagne et en Angleterre.
En Allemagne et en Angleterre? Putain, c'est Jürgen Klopp.
Oui.
Ouais. Oh là là, mais je suis là. Ça fait 2 fois que je suis là.
Mais t'entends le stadium RKS là qui est en furie.
C'est dégueulasse.
Pierre l'a fessé là.
Oh là, il est en train de prendre une fanny. Il va me faire le bisou sur les fesses, le Pierrot là.
Et on passe tout nu sur le bureau.
Allez, je crois qu'il reste encore une question, mon Kev. Hein.
Allez, il en reste une. Et allez, on joue pour le 4-0 là. Allez, on y va. Allez, qui suis-je? Je suis un ancien footballeur désormais retraité. J'ai fait partie, comme Zlatan, de ces joueurs qui ont joué à la fois pour l'Inter de Milan et le Milan AC.
Ronaldo.
Milieu de terrain complet, non. Milieu de terrain complet.
Clarence Seedorf.
Ah. Oui, Clarence Seedorf.
Clarence Seedorf.
C'est improbable.
Clarence Seedorf.
C'est improbable.
Il est magnifique, le Clarence Seedorf. Voilà, vous pourrez le voir en direct sur les réseaux sociaux juste après l'émission. La victoire, mon Pierrot. Clarence Seedorf, mon Kev.
Ouais, bravo.
Voilà,
bravo.
Là, je crois que là, je suis chaud. Mais je suis chaud pour... ça y est, c'est, mais ça tombe bien parce que c'était à Pierrot de préparer le questionnaire de la semaine prochaine.
Non, mais c'est Pierre, parce que je voulais que ça tourne un peu. Champion en titre, 2 victoires, fessé à Kevin.
Ouais, mais tu sais quoi, et j'ai senti Kevin, tu sais quoi, mon Pierre, il est éteint aujourd'hui, il est pas bien.
Ah, il
nous dit sa fille, chantier, tu vois, il avait envie de mettre la main sur la cuisse à droite, il voyait que t'étais pas là. Non, sérieux.
Non, mais la question des 5 joueurs de l'Atalanta, les matchs, je les prépare toujours 3-4 jours à l'avance. Et là, en l'occurrence, la veille du match, je pense que je pourrais t'en donner 7 ou 8 sur l'équipe. Mais là, cette période-là, non, je les ai regardés jouer, mais après, tu sais, en plus, les 3 quarts, ils ont des noms. des pays de l'Est, j'arrive pas à les retenir, c'est improbable. Il sera en France, bon, je te dirais, bon, bah, y a des joueurs, ils ont des noms faciles, quoi. Là, c'est plus compliqué. Puis après, pour le reste, sans vouloir faire un mauvais joueur, Klopp et Zidane, enfin Zidane, tout le monde sait qu'il a eu un ballon d'or. Et Jürgen Klopp, quand t'as dit Allemagne-Angleterre, j'allais le dire, mais le mec, il mange son micro, quoi.
Mais ouais, mais il est là, c'est un compétiteur. Mais
limite, il est debout, quoi.
Oh là là. Je mets le carton rouge là parce que c'est de la mauvaise foi. Hein, c'est...
Non, le seul sur lequel il mérite son point, c'est sur le milieu de terrain de la Juve et du Milan.
Ça fait toujours un zéro.
Là, voilà, ouais. c'est le seul sur lequel j'admets quoi.
Messieurs, notre émission touche à sa fin. D'accord. N'oubliez pas, s'il vous plaît, continuez à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, d'accord. Le RKS Food Time Show, posez vos questions, donnez-nous des idées de sujets. Et en tout cas, en ce qui nous concerne avec Kev et Pierre, on se retrouve, messieurs, lundi prochain, 19h, même heure, même radio, le 97.00 dans le RKS Food Time Show. Messieurs, merci encore pour cette émission et à la semaine prochaine,
merci
messieurs.
Allez, à bientôt, salut. Merci à
bye
tous.
Bye.
Ciao.
Bye.
Le RKS Food Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.